Je vois Joe Saillant qui fait des pieds et des mains. Je devrais, tout est à one, c'est vert. Good. Jean 16. Ça va, mon cher?
Yes.
Good. On va s'introduire avec les versets 16 à 18. Oui, c'est beau, il s'en occupe. 16 à 18, donc on va lire avant que je prie, puis ensuite on va procéder avec le message. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns des disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Et, parce que je vais au Père. » Il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. » Ah, Seigneur, on vient à toi parce que c'est toi qui nous fais comprendre pas toutes tes voies, parce qu'on ne pourrait pas toutes les comprendre, mais tu nous fais comprendre exactement ce dont on a besoin. Et ce n'est pas nécessairement ce qu'on aurait pensé. Tu nous fais comprendre qui tu es. Tu nous fais comprendre comment tu es au contrôle, tu es bon, tu es vrai. Tu nous amènes à croire à qui tu es. Donc Seigneur, comme ici on est dans un moment tellement unique et spécial de ton temps sur la terre, on est aussi dans un temps unique et spécial ici, et donc on veut s'en remettre à toi, que tu nous enseignes sur ce que tu as pour chacun de nous ici, et pour nous ensemble, Seigneur. Merci que c'est toi qui te révèles, c'est toi qui ouvres les yeux du cœur, donc on s'en remet à toi, dépendant et déjà, Seigneur, reconnaissant pour ta provision, et que tu vas, Seigneur, guider et diriger selon ton plan, selon ce que tu as pour chacun de nous ici, au nom de Jésus. Amen. Donc, on peut lire avec les versets qu'on a là que Jésus, dans le fond, avec les autres enseignements, puis ici aussi, il a donné des enseignements, des explications. Puis là, c'est pas juste ici dans le discours de la chambre haute. Pendant 3 ans, il les a enseignés. Puis là, il a encore poussé encore plus loin l'enseignement. Mais malgré tout ça, regardez, leur état sont confus. Ils sont pas trop... certains de ce qui va se passer. Et comme on l'a souligné déjà à travers les messages qu'on a considérés dans le discours de la Chambre haute, là, à partir du chapitre 13 de Jean, Jésus s'occupe du besoin principal, du besoin le plus pressant chez ses disciples, c'est-à-dire leur foi. Leur foi. Parce que les événements qui arrivaient, puis les choses qui étaient en avant d'eux autres, puis toutes les réactions que ça allait engendrer, ça allait s'occuper de leur orgueil. Parce que, bon, il y avait encore un problème d'orgueil, certains étaient trop confiants en eux, d'autres, OK. De toute façon, on a tous un problème d'orgueil. Si on n'a pas, on n'admet pas qu'on a un problème d'orgueil, c'est parce qu'on a un problème d'orgueil. Là. Donc, Dieu allait préparer comme ça le sol de l'humilité de leur cœur, okay, par, on va le dire, par l'humiliation. Mais cette foi était si importante parce que c'est là que ça allait pousser. Dieu s'occupait, à travers les circonstances, de l'humiliation. Mais ici, Jésus, par ses paroles, s'occupe de leur foi. Et cette foi allait pousser dans le sol de l'humilité à travers ce qui était sur le bord de vivre. Déjà ce qu'il vivait, mais ce qui était encore plus sur le bord de vivre. Et je dirais que c'est le modus operandi de Dieu, pas juste ici, encore aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu travaille dans notre vie pour nous disposer, hein, humilier nos cœurs, humilier notre confiance en nous-mêmes, pour qu'on soit propre à croire, qu'on soit disposé à avoir une attitude de foi, de ne pas se regarder sage à nos propres yeux, mais qu'on se confie en l'Éternel de tout notre cœur. Et... ici, on a Jésus qui prépare ses disciples à son départ. Il a préparé à la venue du Saint-Esprit, on a vu ça la semaine dernière. Là, il parle ouvertement du fait qu'il s'en va. Et il les prépare à ça, c'est ce qu'on va voir, c'est le titre du message. Jésus prépare à son départ. Et c'est ça. Ce qu'on voit ici dans ces dernières paroles de Jésus, qui sont directement adressés aux disciples, c'est ces dernières paroles qu'il leur adresse ouvertement, parce qu'après ça, il va parler à eux, d'eux, pardon, mais au Père. Donc là, c'est les dernières paroles qu'il leur adresse directement comme ça, parce qu'après aussi, il y a tout le jugement, le jugement de la croix, mais quand il va devant la cour, là, puis tout ça, donc ça, c'est plus tard. Donc, un moment ici qui est sur le bord de se terminer, ce moment dans la chambre haute, et on voit ici Jésus dans notre texte aujourd'hui, quatre préparations que Jésus leur donne par rapport à son départ imminent. Quatre préparations face à son départ imminent. D'abord, il leur annonce son départ imminent. OK? On vient de le lire dans les versets-là. Jésus qui leur dit, OK, un peu de temps, m'en va, un peu de temps, je reviens. Puis là, ils ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire. Nous, on le voit, c'est, ben oui, il s'en va, il revient, tu sais, la croix, la résurrection. Mais pour eux autres, ce n'était pas évident du tout. Et à deux reprises, on entend les disciples qui disent « C'est quoi que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? » Ils essaient de comprendre le sens, mais ils n'étaient pas capables. Pour nous, on le voit, puis c'est vrai que le contexte nous dit que le sens immédiat, c'est la croix, la résurrection, puis l'intervalle entre les deux, là, parce qu'il y a eu l'intervalle entre les deux dans le tombeau. Mais là, imaginez-vous, ils étaient déjà un peu confus, mais là, l'état de confusion et de perplexité allait augmenter. Et leur foi vacillait du fait même. Et c'est pas moi qui ai inventé ça. Je prends ça dans Luc 24, où est-ce qu'on voit entre la mort de Christ puis quand il apparaît à ses disciples après être ressuscité. On lit dans 24, 17. « Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? » Jésus ici qui parle aux disciples d'Emmaüs. Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. » Écoutez ce qu'ils disent ensuite. « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées, puis en parenthèse, on voit rien de différent, il n'y a rien que changé. OK? Puis c'est vrai, il n'y avait rien vu. Bon, ils ne se rendaient pas compte qu'ils parlaient à Jésus ressuscité, mais quand même, on peut comprendre ici, c'était quoi leur état d'esprit, où est-ce qu'ils étaient mentalement, spirituellement, dans ce moment d'attente entre la croix et la résurrection. Et donc, on voit que ce qui est ici comme état d'esprit dans la chambre haute, ça n'allait aller qu'en rempirant. Le pire était à venir. Des fois, on aime ça dire le meilleur est à venir, mais soyons réalistes ici, le pire était à venir pour eux autres. OK? Puis là, en plus, qu'on apprend que quand on lit ici, ils se parlaient entre eux autres. OK? Puis le temps de verbe qui est utilisé, que ça dit qu'ils se parlaient entre eux autres, c'est, l'idée c'était constant. C'est pas juste on s'en parle un petit peu puis c'est fini. C'est comme, non, ils arrêtaient pas de s'en parler pour essayer. Mais là, c'est quoi que ça veut dire? C'est quoi que ça signifie? Puis un allait voir l'autre, puis l'autre. C'était la discussion qui était animée entre eux autres. Mais ils n'osaient pas en parler au Seigneur. Heureusement, le Seigneur, lui, vous allez voir dans le prochain point, il a pris les devants et leur a expliqué. Mais là, on voit vraiment qu'il y avait cette tension qu'ils n'étaient pas capables de résoudre et qui était provoquée par les paroles même de Jésus. Un peu, puis là, on va faire un petit peu d'imagination sanctifiée. Leur conversation devait probablement ressembler à quelque chose de même. Ben, si Jésus veut instaurer son royaume messianique, parce que n'est-ce pas ce que, évidemment, il s'attendait, pourquoi il s'en va? Ou, d'un autre côté, s'il ne veut pas l'instaurer, mettons que, OK, c'est plus tard ou tout ça, mais pourquoi il va revenir d'abord? Fait que d'un bord comme de l'autre, il était dans une impasse. Les si et les pourquoi, comme ici, là, puis là, bon, je vous dis, c'est pas dans le texte, mais on peut s'imaginer qu'il y avait ce genre de questionnement-là. Mais pour nous, les si et les pourquoi de nos doutes et de notre perplexité ne pourront jamais élucider par les raisonnements humains, par les recherches humaines, les choses que seulement la révélation de Dieu et l'illumination du Saint-Esprit vont pouvoir élucider. Les raisonnements humains, la logique humaine, OK, ne sont pas la solution à notre perplexité et nos doutes. C'est la révélation de Dieu puis l'illumination du Saint-Esprit. Pour ça que lorsqu'on est dans le doute et la perplexité, il faut aller à Dieu. Dépendamment de dire, Dieu, j'ai besoin que toi tu m'éclaires, que toi tu me montres ce que je ne vois pas. Vous allez voir, Dieu leur a montré les choses. Il ne leur a pas tout montré, mais il leur a montré ce qu'ils avaient besoin. On va voir ça, là, on avance dans le texte tranquillement. Mais Dieu s'occupait de tout, mais les pauvres ici, ils étaient vraiment dans un moment de confusion. Puis d'ailleurs, on apprend, parce que je vous dis que c'est avec la révélation, l'illumination du Saint-Esprit. Révélation, c'est la parole de Dieu, on l'a, elle est complète entre nos mains. L'illumination, c'est Dieu qui jette sa lumière sur la parole. Bien, on apprend encore là dans Luc 24 que Jésus, une fois ressuscité, donc après toutes ces choses-là, ça dit qu'il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Puis dans Jean, ça dit qu'il a soufflé sur eux autres l'esprit. Ça réfère à la même chose. Il leur dit, donc Jésus, après leur avoir ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures, il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses et voici j'enverrai sur vous ce que le Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Donc, ça, c'était beaucoup plus loin, là. Je veux dire, ici, on est en chambre haute, c'est avant la croix. Mais après la croix, c'est ce que Jésus a fait pour justement les aider à comprendre. C'était pas avec leur raisonnement et leur logique humaine qu'ils pouvaient comprendre, c'est par l'intervention divine qu'elle allait leur révéler ces choses. Et lorsqu'on est dans l'épreuve de la foi, et il y a l'épreuve de la foi dans la vie de tout enfant de Dieu, il y a toujours le piège de l'incrédulité qui est là. L'épreuve de la foi sous-tend, ou sous-jacent à l'épreuve de la foi, c'est le piège de l'incrédulité dans lequel on peut être pris. Un peu comme on a dit la semaine dernière, hein, que ça soit une occasion de chute, quelque chose qui nous prend comme ça par surprise, qu'on n'a pas vu venir. Puis là, qui nous prend. Puis, dans nos vies, là, OK, on va voir ou on va comprendre ou on va ne pas voir et ne pas comprendre selon la réponse de la foi. Autrement dit, ce que Dieu veut me montrer dans ma vie, là, c'est pas juste en cherchant dans ma Bible puis en ayant toutes les réponses théologiques à la bonne place puis le bon point sur le bon « i » puis le bon bord sur le bon « t ». Non, c'est « oui, je vais dans les Écritures, mais en dépendant de Dieu, Dieu, faut que tu me le montres. » C'est pas de façon indépendante puis à force de se creuser les méninges. C'est en cherchant l'Éternel dans sa parole, dans la prière, dans la dépendance, que là, il va nous montrer. Mais ça, c'est la foi. Parce qu'on peut essayer d'y aller par la chair. Essayer d'avoir les réponses nous-mêmes. Puis, ah, t'as vu, il y a un principe biblique qui dit ça. Puis, ça peut être dépourvu de dépendance à Dieu. Ça peut être fait de façon, ça a l'air bien, mais c'est la chair qui est derrière. Parce que nous, on veut la réponse, puis nous, on veut l'explication. Alors que par la foi, on dit, non, Dieu, je ne peux pas comprendre si toi, tu ne me le montres pas. Je ne pourrais pas voir si toi, tu ne me fais pas voir. OK? Et ça, c'est vraiment important ici parce qu'ils ne voyaient pas grand-chose en fait. Là. Ils voyaient ce que Dieu avait besoin. Mais c'est pourquoi Dieu leur a montré là ce qu'il avait besoin de voir. Puis plus tard, plus. Parce que Dieu voulait que ça soit comme ça. Puis je pense qu'il n'aurait même pas été prêt de toute façon à tout avoir tout d'un coup. Fait que Dieu s'occupait des autres, donc il y avait cette position de dépendance. Donc, pour nous, là, le plan de Dieu ne se saisit pas par nos raisonnements. Puis, tu sais, tout comprendre, là, c'est quoi que les circonstances veulent dire, les relations, puis tout ça. Ça peut simplement souvent être des justificatifs pour l'incrédulité. On raisonne notre façon de faire à travers ça, puis on se trouve une façon de s'en sortir. Mais lorsqu'on dépend de Dieu par la foi, qu'est-ce qui arrive? Il va arriver comme dans le Proverbe 4, 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Plus ça va, plus Dieu va nous faire comprendre, puis il va nous faire voir ce qu'on veut voir. Pas tout, parce qu'on ne pourrait pas tout voir puis tout comprendre, mais il va nous faire voir ce qu'on a besoin de voir puis ce qu'on a besoin de comprendre. Donc, c'est la première chose avec l'annonce de son départ imminent. Ensuite, Jésus les prépare en expliquant son départ imminent. D'abord, commençons au verset 19. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, ben, il voyait bien tout ce qui se passait, ok, quand il, ici, c'est les disciples, leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. » Donc là, Jésus prend les devants, puis il dit, « Ok, ouais, je vois que vous vous questionnez, là. » Puis là, il va leur donner une explication. Puis comme je l'ai dit, il ne leur explique pas nécessairement tout, mais assez pour le moment présent, pour être affermis dans la vérité présente. Il leur donne ce qu'ils avaient besoin là. Il leur donne leur pain quotidien. Il leur donne le moment présent, ce qu'ils nécessitaient. Parce que Jésus comprenait qu'il avait besoin de clarification, hein, parce que là, il était confus, puis je veux dire, ça ne l'aidait pas du tout à leur état, le fait de rester comme ça dans un état d'incompréhension et de confusion. Mais il savait aussi qu'il avait besoin de plus que juste de l'information. Ah, là, je vais vous donner un fait numéro 1, numéro 2, numéro 3. Non, il avait besoin que leur cœur, leur pensée soit préparée à endurer les circonstances extrêmes qui étaient devant eux autres. OK? Fait que c'était plus de l'information qu'il avait besoin, c'était plus que ça, c'était de la préparation spirituelle. Pourquoi? Parce que là, il était sur le point d'expérimenter. Déjà, il était triste, là. On l'a vu la semaine dernière, la tristesse remplissait leur cœur, mais c'était pas fini, là. Imaginez-vous la tristesse de voir, OK, de perdre cette relation privilégiée avec Jésus, d'être avec lui, là, tous les jours. Ça allait finir, ça. De voir Jésus humilié comme ça, publiquement. Imaginez-vous la tristesse de voir celui en qui on a mis tout notre espoir, puis qui est comme ça traité d'une façon extrêmement humiliante. De voir l'apparente victoire de ses ennemis. C'est comme, ben là, je pensais que c'était le bon. Voyez-vous la tristesse, le désespoir. Puis, justement, de perdre l'espoir qu'il avait mis en Jésus, c'est ça qu'on a lu. Nous espérions que c'est lui qui délivrerait. Tu sais, c'était vraiment dur là, ce qui était devant eux autres. Mais remarquez ce que Jésus dit au verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. J'aime ça avec Dieu. Dieu, il est réaliste. Il ne leur dit pas, « Ah non, faites-vous-en pas, tout va bien aller, vous n'aurez pas de problème. » Non, vous allez être triste, puis le monde va se réjouir. Fait que dans le fond, ce qu'il appréhendait, il avait raison. Parce qu'effectivement, tu sais, les choses se sont passées d'une façon assez difficile, merci. Mais il les amène ici à considérer que, OK, premièrement, si Jésus leur en parle avant, ça montre que ce n'était pas un accident de parcours, c'était le plan de Dieu qui s'accomplissait. Il n'avait pas échappé là, je veux dire, tout était comme c'était supposé arriver. Déjà, c'est réconfortant, Jésus qui leur parle comme étant, OK, il leur dit, ah oui, là, je ne sais pas trop quoi faire, puis, hey, merci d'être inquiet, parce que moi aussi, je t'inquiète. Non, non, il leur parle, tout est sous contrôle, puis il leur parle à l'avance de ce qui va arriver. Déjà, ça, c'est réconfortant, il parle comme celui qui est parfaitement au contrôle, qui connaît toute chose. Mais plus que ça, OK, c'est pas un accident de parcours, mais aussi c'est la manière par laquelle le plan de Dieu doit s'accomplir. Oh, OK. Ça a dû justement... Imaginez-vous, parce que là, eux autres, ils avaient comme une impression de perte de contrôle. Jésus leur dit, non, au contraire, tout est sous contrôle. Fait que ça nourrit la foi, puis ça l'amène, malgré l'épreuve, ils disent, non, c'est supposé d'être de même. Ça soutient quand tu penses que tout est... Et tout croche, non, c'est supposé d'être demain. C'est le plan. Puis c'est le plan de le pattern, la croix vers la résurrection. Ce qui est dur, c'est l'attente entre les deux, le tombeau. Ou on peut dire, pour nous, la mort vers la vie. Puis nous aussi, c'est dur l'entre-deux. C'est toujours dur l'entre-deux. L'épreuve, c'est l'entre-deux. L'épreuve de la foi, c'est l'entre-deux. Mais Jésus leur dit que la source même de ce qui allait les attrister allait devenir la source de ce qui allait les réjouir. Parce que c'est vrai, n'est-ce pas, que la résurrection donne tout le sens à la croix. Tu regardes la croix, s'il y a juste la croix, ah non, puis là comme il dit, on pensait que ça allait être lui, mais la résurrection, ah c'est lui, il a vaincu, c'est pas terminé, l'histoire a fini bien. OK? Donc Jésus prend vraiment bien ces mots. Puis j'aime l'illustration qu'il donne. Jésus avait le tour d'avoir des illustrations qui étaient vraiment pointées. Tout ça, un verset, mais ça veut tellement dire beaucoup. La femme, lorsqu'elle enfante, verset 21, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. N'est-ce pas aussi ce qu'elle a expérimenté? Les douleurs de l'enfantement, cette douleur-là de savoir, mais après ça, ça a donné le fruit de la croix, le fruit de la vie, puis, OK? Très bonne illustration. Verset 22, on peut lire, « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. » Wow! Puis, c'est tellement vrai ce que Jésus dit là que c'est au point où est-ce que les disciples qui étaient dans la peur, puis qui ont fui lorsque Jésus a été arrêté, par après, ils étaient prêts à aller jusqu'à la mort, puis jusqu'au bout, à cause de ce qu'il a fait, puis cette joie qui les animait. Littéralement, je crois qu'il y a un accomplissement littéral ici de Néhémie 8-10. La joie de l'Éternel sera votre force. Il était tellement joyeux de savoir, waouh, on a le Dieu vivant, celui qui a conquéri la mort, le péché, tous nos ennemis. Il avançait par la force de cette joie d'être avec le ressuscité, le Christ conquérant, que tout ce que dit est absolument vrai, c'est tout selon les Écritures. Et donc, Jésus attaque le problème de front, en contrecarrant là, cet esprit léthargique qu'il y avait. Il leur dit, il est réaliste en disant, oui, ça va être dur, mais au bout de ça, le meilleur est tellement à venir que ça va dépasser ce que vous pouvez comprendre. Et donc, il suscite la foi de ses disciples. Il suscite la foi. Comme ça dit, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Et c'est le pattern que Dieu veut dans nos vies. Qu'on regarde à lui au lieu des circonstances. Qu'on s'attende à lui au lieu de nous-mêmes, des autres, des circonstances. Et ça, c'est par la foi qu'on fait ça. Et le juste vivra par la foi, et Dieu rémunère ceux qui, comme ça, le cherchent par la foi. Donc, c'est la deuxième préparation. Il explique son départ, puis ensuite, il continue dans les versets 23 à 27. Il promet le fruit, une troisième préparation, il promet le fruit de son départ. D'abord, dans les versets 23 et 24, on peut lire, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Deux fois, Jésus parle ici de demander, d'interroger. Il dit, ça ne va plus arriver. Vous n'allez plus m'interroger, puis vous n'allez plus rien me demander. Il va se demander pourquoi Jésus parlait de même. L'idée, là, c'est que la joie qu'il allait avoir de comprendre enfin, là, tout c'est quoi l'œuvre de la croix, puis la résurrection, puis ça allait être tellement grand que là, leur vie allait être complètement révolutionnée. En fait, c'est comme, tu sais, quand quelqu'un est sauvé, puis que là, il se rend compte, « Hein! C'est Jésus qui sauve, puis j'ai plus à lutter, puis je peux me reposer, puis je peux me réjouir. » OK, ça révolutionne complètement notre façon de voir. Ben, d'autres, ils allaient expérimenter ça aussi, là. Puis je dis pas qu'ils étaient pas sauvés à ce moment-là, là, mais c'était tout comme, parce que vraiment, une fois qu'ils ont tout vu ça, c'est comme, « Oh, OK, on voit plus rien de la même façon. » On voit plus rien. En fait, littéralement, c'est comme ils connaissaient Jésus selon la chair, mais après, avec l'Esprit de Dieu, puis tout ce qui était accompli, puis avec l'Esprit de Dieu qui habitait en eux, là, ils ne connaissaient plus de la même manière. Ils connaissaient selon l'Esprit. Donc, ça a complètement tout changé. Il n'y a plus rien qui était pareil. Et pourquoi? Parce que là, littéralement, ils pouvaient tout comprendre. Puis tout faisait du sens. Puis tout comprendre, ce n'est pas dans un sens absolu d'être omniscient, là. Mais là, c'est comme, ah, là, les pièces du puzzle étaient ensemble, puis là, ils voyaient l'image. Ah, OK, c'est clair. Moi, je me rappelle, quand j'ai été sauvé, c'est ça, j'avais ce questionnement existentiel, ben pourquoi on est ici sur Terre? Ça ne marche pas, puis justement, il y avait pas mal des morceaux de mon puzzle qui ne marchaient pas, puis quand j'ai reçu Jésus comme mon sauveur, puis que l'Esprit est venu habiter en moi, moi qui n'avais jamais lu la Bible, c'est comme, wow, OK, là, je comprends tout. Là, ça fait du sens. Puis comme je vous dis, c'est pas que je comprends tout, j'apprends encore à tous les jours, mais là, j'avais cette compréhension globale, claire et nette, simple, où est-ce que, ah, c'est ça qui manquait. Il manquait ben, la croix, Jésus, la résurrection et tout ça. Et c'est ça ici qui était sur le point de se passer, où leur relation avec Dieu allait être transformée de façon tellement radicale et profonde que même demander quelque chose, ça allait, c'est comme s'il n'y avait rien demandé, parce qu'on s'entend ici, il avait-tu demandé des choses à Dieu? Oui, mais pas dans le sens de ce qu'il était sur le bord d'arriver. Là. Puis là, il dit, vous n'avez rien demandé en mon nom. Puis leur joie parfaite. Donc, c'est toutes des choses qui montrent à quel point les choses allaient dépasser tout ce qu'ils pouvaient comprendre à ce moment-là, à cause de la révélation, à cause de l'illumination. Puis verset 25 abonde dans ce sens-là. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. » Et Jésus, il répète ça, l'idée de demander au Père, puis du Père, puis son amour, verset 26, « En ce jour, vous demanderez en mon nom, je ne vous dis pas que je prierai pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Dieu parle constamment, Jésus parle de leur relation à Dieu, qui est leur Père, puis de demander au Père au nom du Fils. Et dans le fond, eux autres allaient découvrir cette relation-là avec le Père dans une toute nouvelle dimension qu'ils ne connaissaient pas encore, une proximité, une profondeur qu'ils ne connaissaient pas encore parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Donc, on voit comment la Trinité travaille ensemble. Hein? Le Fils qui est venu accomplir l'œuvre, c'est ce que le Père a ordonné, puis c'est ce que le Père qui les aime avait pour eux autres, puis le Saint-Esprit qui leur faisait apprécier ça. On voit vraiment la Trinité ici qui est impliquée pour révéler, illuminer l'amour du Père à ses enfants. N'est-ce pas aussi? C'est une bonne prière. Dieu, révèle-moi la grandeur de ton amour. Si vous priez comme ça, vous allez prier comme Paul dans Éphésiens 3. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Connaître quelque chose qui surpasse la connaissance, c'est infini. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et donc, c'est ça que le Dieu trinitaire va faire dans la vie de ses enfants. Révéler la grandeur de son amour. Et c'est ce qu'il, ici qu'il est en train de faire. Et là-dessus, j'aimerais vous lire 1 Jean 4, 18. « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. » Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as ta sécurité? Est-ce que tu as ton réconfort dans l'amour de Dieu? Est-ce que c'est ton trésor, le fait, OK, je suis aimé de Dieu. Je peux me reposer là-dedans. C'est le plus grand atout de la vie chrétienne. La vie chrétienne victorieuse, c'est d'être reposé, d'être sécure dans l'amour de Dieu. Et ça, il faut le croire, tout simplement. Et en proportion de ça, on va vivre cet amour. C'est qui disait ça? Kevin, je pense que c'est une ressource qu'on a regardée. Accepter notre acceptation. Tu te rappelles l'expression? Je pense que c'est-tu Anderson? Hein? Ah oui, OK, c'est M. Solomon. Lorsqu'on accepte notre acceptation, qu'on se rend compte que, OK, Dieu, non seulement il nous aime, mais il nous montre qu'il nous aime. Puis que là, ça devient un réconfort. Puis que, et pourquoi la même circonstance qui arrive, qui a de l'air tellement adverse, et ben, qui est adverse, mais qu'on dirait que c'est un rejet de Dieu, on ne va plus du tout l'avoir de la même façon. On va la voir comme étant le fruit direct du Dieu qui nous aime. Qui nous donne ça, oui, comme avec Job. Est-ce que Dieu aimait Job? Oui, puis il a permis ce que Job a vécu. Quand on est sécure dans l'amour de Dieu, c'est ça que ça fait. On ne voit plus les choses de la même façon. Ce n'est pas que nos circonstances ont changé. C'est nous qui avons changé dans le milieu de nos circonstances. C'est ça que ça fait, être sécure dans l'amour de Dieu. C'est tellement libérateur. Mais nous, si on vit dans une mentalité de performance, que là, ah, là, j'ai pas été gentil, donc là, Dieu me châtie, puis là, il faut que je regagne sa faveur. C'est pas mal plus stressant. Mais surtout, ce n'est pas biblique. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Puis regardez ce que Dieu dit sur son amour de ses enfants. Ce n'est pas quelque chose de partiel qui donne juste un peu de mal. Non, quand on est aimé, on est dans le bien-aimé. C'est un état dans lequel on est. Puis d'ailleurs, on est fait pour ça, pour connaître ce Dieu qui nous aime puis qui se fait connaître. C'est lui le but de la vie chrétienne. C'est une personne, ce n'est pas un verbe. Le but de la vie chrétienne. C'est un nom et ce n'est pas une personne. Et la récompense de la foi, bien, c'est d'accepter simplement qu'il en est ainsi, que Dieu nous aime, puis que c'est lui qui s'occupe de nos circonstances, puis qu'il va révéler ce que lui veut révéler à travers ses circonstances, mais il va révéler quelque chose sur lui. Je posais la question cette semaine, c'est quoi que Dieu nous donne en cadeau lorsqu'on est éprouvé? il nous donne lui-même. C'est lui le cadeau. C'est lui le cadeau. Puis il va nous révéler un peu plus de qui il est. On va avoir une fraîche appréciation de qui il est. C'est ça son cadeau. Ça va faire « Oh, wow! » Ça peut paraître un peu « Ah, oh, j'ai pas de nanane, j'ai pas une Cadillac. » Non, t'as Dieu. C'est tellement mieux. C'est tellement mieux. Quatrième préparation de Jésus à son départ, versets 28 à 32. On va commencer au verset 28. « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Tu sais, des fois, on peut lire quelque chose de vite. D'ailleurs, Jésus a parlé un peu dans ces termes-là avant, au chapitre 14 et le verset 18, lorsqu'il a dit « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Ce n'était pas tout à fait nouveau ce qu'il disait là, mais il y avait vraiment quatre éléments ici fondamentaux sur sa personne et son œuvre. Parce que d'abord, il dit, si je ne veux pas me tromper en disant, « Je suis sorti du Père. » Ça, ça montre son essence. Il est Dieu. Dieu, fait-on, la parole qui a été faite chair. OK? Donc, déjà, on a l'essence de qui il est. Ensuite, « Je suis venu dans le monde. » C'est quoi ça? C'est l'incarnation. Hein, il est venu dans le monde. Donc, sorti du Père, son essence. Venu dans le monde, sa mission, son incarnation. Ensuite de ça, il dit, « Maintenant, je quitte le monde. » Et ça, on peut dire, ben c'est la croix. Hein? Christ allait à la croix en mourant. Et ensuite, il dit, « Et je vais au Père. » Ben c'est sa résurrection, son ascension. Donc, on a l'œuvre complète de Christ dans un petit verset comme ça. Et ça, c'est l'élément fondamental de ce qu'il leur communique ici. Là. Il ne faut pas le manquer. Mais là, il y a un de ces moments où est-ce que tu dis, « Ah oui, as-tu vraiment compris? » Parce que là, Jésus a dit ça, c'est un beau, une belle phrase, là. C'est un beau statement, comme on dit au Québec. Là, ses disciples qui disent au verset 29, « Voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » C'est un peu comme quand Jésus leur demande dans Luc, il dit, « Est-ce que vous avez compris? » Ils disent oui. Moi, je dis, « Ah ouais, vraiment, t'as compris? » Puis là, il dit, « Ah, on comprend, c'est comme... » Je lis ça, puis je dis, « Vraiment, vous comprenez? » On va explorer ça un peu parce qu'il y a quelque chose ici. D'ailleurs, Jésus, au verset 31, qu'est-ce qu'il dit? Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant? » Y a-t-il un point d'interrogation? C'est comme, « Allons, on croit, mais... » Ah oui, vous croyez? C'est quoi qui est là exactement? En fait, je crois que oui, ils croyaient à ce que Jésus leur montrait qu'ils devaient croire là. Ils n'étaient vraiment pas complets dans leur croyance et dans leur compréhension de l'œuvre de Christ, mais ce que Jésus vient de dire là, sur le fait que son essence, sa mission, la croix, puis la résurrection, là, puis dit dans les mots qu'il a dit là, ça je pense vraiment qu'ils croyaient, parce que c'est le plan rédempteur qu'il leur révélait, qu'il leur a révélé depuis... Ils ne comprenaient pas tout, en fait, loin de là, mais les éléments fondamentaux, je pense que ça, OK, ils croyaient. Okay? Je ne pense pas qu'ils mentaient, qu'ils exagéraient, qu'ils se faisaient des accroires, malgré que c'était, disons, une foi qui n'était pas encore si complète et éclairée. Un peu comme quand Pierre, il dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il croit vraiment ça, OK? Mais là, il y a l'élément de la croix et la résurrection qui est amené. Puis là, « Ah, OK, tu nous parles du Père. » Fait que je pense qu'il commençait vraiment de plus en plus à comprendre ces choses, malgré que l'effet n'était pas complet. Et là, j'explique. Il acquiesçait à ces vérités. Okay, je pense qu'il pouvait vraiment voir, OK, tu viens du Père, tu retournes au Père. Okay, il pouvait comprendre ça. Mais il n'y avait pas le plein effet sur leur cœur. Puis bon, toute l'affaire de la croix, je ne suis pas sûr qu'il saisissait toutes les ramifications, mais le fait qu'il croyait... C'était bon, ça les aidait, mais je ne sais pas pour rien que Jésus les avertit au verset 32 parce que cette étincelle de foi qu'il y avait là, il fallait qu'ils s'accrochent à Dieu là-dessus, puis ça allait être qu'il allait les faire passer au travers. Pourquoi? Parce que Jésus les avertit au verset 32, « Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Donc oui, ils croyaient peut-être ça, mais ouf! Il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient devant eux autres auxquelles ils n'étaient pas complètement prêts. Et ça m'amène à faire cette application-là. Et on a presque fini le message. Combien c'est possible, et même c'est facile, de savoir des choses dans notre tête, d'acquiescer, mais de ne pas en être convaincu, les approprier dans notre cœur. Oh! Par exemple, pendant des années, j'ai cru à Romains 6, 7, 8, notre union avec Christ, je suis mort avec Christ, vivant en lui. Je le savais dans ma tête. Mais c'est quand Dieu a saisi mon cœur avec ça que ça a commencé à faire son chemin. Puis, savez-vous quoi? Je suis loin d'être parvenu, là. J'ai encore une vision incomplète ou de mon appréciation. Mais déjà, quand ça descend encore, ça fait une grosse différence. N'est-ce pas aussi ce qu'on dit au non-sauvé? Ah, tu connais les choses sur Jésus, mais ce n'est pas descendu dans ton cœur. C'est vrai, pour un enfant de Dieu, on peut connaître des choses, mais ils vont vraiment avoir un impact dans notre vie lorsque ça descend dans le cœur. Puis c'est ça que Dieu est en train de faire avec eux autres ici. Un autre exemple. Je parlais de l'amour de Dieu tantôt. On peut savoir que Dieu nous aime, mais quand on est saisi par ça, c'est totalement différent. Puis, c'est ça. Dieu fait ça par rapport à Dieu. Dernièrement, il m'a humilié par rapport à des choses que je pensais, je ne voyais pas dans ma vie, par rapport au ministère. Puis comment, vous savez que le ministère, ça peut être un très bel idole. Où est-ce qu'on trouve de l'acceptation, de la valorisation, puis tout, puis ça peut prendre la place de Dieu. Ben, quand Dieu me montre ça, c'est comme, c'est poche, hein? Mais c'est quoi? Vous voulez dire de quoi? C'est pas poche. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Psaume 119, verset 67. Psaume 71, il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Puis verset 75, je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Quand on comprend ça, on dit, OK, Dieu, c'est correct. Merci. J'en avais besoin. Et je pense que c'est vraiment important ici, Jésus, puis j'ai oublié de dire le titre du dernier point, la dernière préparation, c'est que Jésus replace leur confiance. Là, ils voulaient peut-être essayer de placer leur confiance dans ce qu'ils faisaient, puis là, comme j'ai dit la semaine passée, Jésus leur a dit, faites-moi confiance, je vous dis la vérité, c'est mieux que je parte. Ils ne pouvaient pas le comprendre à ce moment-là, mais faites-moi confiance. Bien, ici aussi, il allait avoir des choses dures, puis tout ça, mais faites-moi confiance. C'est pour ça qu'il termine avec cette note de triomphe. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Jésus parlait, c'était pas juste des paroles en l'air. Il les préparait à ce qui venait. Jésus avait un but. Il les préparait à la tempête qui était devant eux autres. Je vous ai dit ces choses. Puis là, je vais paraphraser, afin que vous ayez la paix en moi dans la tempête qui s'en vient. OK? Parce qu'ici, après ça, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Une conclusion triomphante de Jésus devant des disciples dans un état de faiblesse et de confusion. Et donc, c'est tout à fait approprié. C'est Jésus encore là qui dit, faites-vous-en pas, j'ai tout ça sous contrôle. Mon Père vous aime. Mon Père, c'est le plan exactement qu'il a prévu, puis je suis exactement là où ce qu'il veut qu'on soit, puis vous faites partie de ça. Tout est sous contrôle. Des fois, on peut dire ça nous autres, puis on se demande, mais Jésus, vraiment, il pouvait dire, oui, tout est sous contrôle. Même pour ses ennemis qui étaient là, puis qui allaient l'envoyer sur la croix. Et donc, ça résume ici l'ensemble du discours du chapitre 16, 14 à 16. Ça finit avec une note de paix et d'assurance. Est-ce que ici, vous écoutez puis vous pouvez dire vous avez la paix avec Dieu? Réconcilié avec Dieu. Êtes-vous encore ennemi de Dieu? Vous avez été réconcilié par le sang de la croix. La paix, ça commence en recevant Jésus, notre paix. Et pour les enfants de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Pas la paix avec Dieu, ça, quand on a la paix avec Dieu, on l'a une fois pour toutes, mais la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est ça que Dieu veut nous donner. Lui, le prince de paix, veut se donner lui-même. À ceux qui ne le connaissent pas, puis à nous qui le connaissons, c'est la même chose, le même don. La même personne, le prince de paix. Il offre sa paix, il donne sa paix. Puis il promet qu'il va y avoir des tribulations. Donc, ce n'est pas une paix qui est l'absence de problème. C'est la paix qui est au milieu des problèmes qui fait que c'est surnaturel. On n'est pas accablé, on n'est pas tout démantibulé à cause de ça. C'est ça la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et donc, il a remporté la victoire, il a vaincu le monde et c'est par la foi qu'on se l'approprie. Dieu, ce n'est pas juste quelque chose de lointain qui nous amène. La parole qu'il nous donne est proche de nous ici. C'est pour qu'on l'apprenne. Donc, je vous invite, d'abord, si vous ne connaissez pas le Seigneur, à vous approprier son salut. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Et pour les enfants de Dieu, il est notre paix. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Oh, merci Seigneur ce matin d'être ce Dieu toujours fidèle au rendez-vous. D'être ce Dieu aussi qui nous prépare. Merci Seigneur, on n'a pas besoin de savoir tout ce qui est en avant de nous autres. Comme les disciples, beaucoup de choses qu'ils ne comprenaient pas. Mais tu leur as donné sur mesure ce dont ils avaient besoin. Et c'est comme ça encore ce matin, aujourd'hui. Et donc, on vient à toi, Seigneur, parce qu'on a besoin d'être préparé. Nos cœurs, pas juste des informations et des choses dans notre tête, mais nos cœurs qui soient affermis en toi. Puis merci qu'on n'a pas le fardeau d'avoir essayé de tout comprendre, de tout savoir c'est quoi qui va se passer, puis où, puis comment. Mais qu'on a juste à venir à toi. Le grand qui. C'est ça la solution, c'est un qui. Et on est créé pour ça. Le but de la vie chrétienne, c'est une personne. En fait, le but de tout être sur la terre, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu. Et Jésus, ton Fils, que tu as envoyé. Seigneur, ceux qui ne le connaissent pas, qu'aujourd'hui ils puissent le connaître. Qui se confient en toi. Et pour nous, tes enfants, Seigneur, oh, qu'on rafraîchisse pas juste notre compréhension, mais notre appréciation de qui tu es. Seigneur, ranime nos cœurs, nos esprits en toi. Merci qu'on vient à toi, c'est pas en vain, pas du tout. Parce que tu es le rémunérateur de ceux qui cherchent. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as promis. Oh, merci Seigneur. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.